Bonjour, c'est Boulet, vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonsoir, donc toujours en direct du festival des Calanques des Bulles, donc tard le soir, nous accueillons donc Boulet, bonsoir.
Bonsoir.
On va quand même présenter notre invité, l'auteur Boulet, une star du blog.
Vas-y, continue à dire des trucs, j'ai envie de savoir ce que... Fais la présentation.
Tu dis tout à l'heure VIP, donc il faut...
Sois élogieux, vas-y.
Donc, le blogueur le plus connu, on va dire, en tout cas, qui est, je pense, le plus suivi.
Oula, je sais pas. La concurrence est rude dans ce milieu, vous savez. Il faudrait faire des évaluations selon différents critères. Je pense que en termes de rapport qualité-poids, je bats Pénélope. Mais c'est tout à son honneur. Je sais pas, en termes de lecteurs, on va pas commencer à faire des statistiques, c'est tellement foireux. Donc voilà, je sais.
Donc on va vous parler un petit peu de votre actualité. Alors, déjà de ce que vous avez fait, donc Ragnarok,
oui.
Qui était votre...
C'était ma première bande dessinée jeunesse chez Glénat, prépubliée dans le journal Tcho.
Après, il y a eu donc les notes du blog aussi.
Ouais, alors ça c'est beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus tard. J'ai commencé à faire Ragnarok en 99 dans le journal Tcho. C'est sorti en album à partir de 2001. J'ai continué à faire un peu de jeunesse avec la rubrique scientifique, le MIA, les Vomox chez Tcho. J'ai commencé le blog et en 2004. En parallèle, je faisais Donjon. Et voilà, le premier note est
sorti... T'es arrivé en 2008.
2008, voilà.
Donc Chicou Chicou aussi, un album collectif.
Chicou Chicou, ouais, c'était pareil, ça a commencé plus tard, ça a commencé vers 2006. Et c'était un bloc collectif avec Aude Picot, Demity Collardet, il y a eu Olivier Talek, Erwan Surcouf, Lisa Mandel, on était nombreux en fait, on incarnait chacun un rôle et on a fini par sortir un album collectif chez Shampoing. Dans l'album collectif, on retrouve surtout Aude, Demity, Lisa et moi, avec les interventions à la fin de Erwan Surcouf et quelques apparitions aussi de Home, qui était un dessinateur de Tcho.
Ok. Et du coup, sur Chicou Chicou, comment est-ce que vous avez fait pour transposer certaines pages, on va dire, du blog en BD, parce que c'était quand même certaines pages, on va dire, étaient quand même très verticales. Il y avait beaucoup de suites dans les décors.
Chicou Chicou, à la base, c'était vraiment on voulait vraiment appliquer au blog le principe du cadavre exquis. C'était à la base Chicou Chicou, c'était une idée de Domiti Collardet, Olivier Talek et Aude Picot. Tous les trois qui étaient très bons amis et qui avaient lancé ce blog où ils incarnaient chacun un personnage imaginaire et ils m'ont proposé de rejoindre. Donc on s'est retrouvés tous les quatre et le but c'était de vraiment se mettre dans la peau des personnages, c'est-à-dire on parlait en leur nom, on n'utilisait pas nos vrais noms et on faisait des pages où chacun postait un truc et les autres pouvaient répondre derrière complètement librement et on essayait de construire des histoires. Donc ça a duré un long moment, hein. Ça a duré, je sais pas, jusqu'à 2012. Peut-être, je sais plus, peut-être 2009. Et on nous a proposé une adaptation en album. Et pour l'adaptation en album, en fait, on a sélectionné à mort. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pages, effectivement, qui étaient de l'ordre du ping-pong verbal et qu'on pouvait pas transposer en album. Donc on a choisi les notes qui permettaient le mieux cette transposition en album. On a redécoupé pour les adapter au format page. On a pris ce qui nous paraissait le plus judicieux, mais enfin c'était. Il faut voir que c'était quand même sur plein d'années. On a fait un album qui était une compilation, donc l'album il fait déjà, je sais plus, 400 pages, quelque chose comme ça, et il représente peut-être un tiers de ce qui avait été mis en ligne.
Okay. Donc là après, je survole à peu près toute ta production. Au niveau des notes, donc là tu as sorti la sixième, donc je crois que c'est
Debout mes globules.
Ce sera donc la dernière.
Non. Non, non, en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, en fait, là, au début, à la fin 2011, c'est que j'ai dit que j'allais arrêter de chercher à adapter les notes en album. C'est-à-dire que c'était devenu un peu une obligation. Il fallait que je fasse ma note par semaine, voire mes deux notes par semaine, pour avoir un certain nombre de pages par mois, pour, à la fin de l'année, pouvoir avoir un album complet. Et je me suis rendu compte que pour le blog, j'avais pas du tout envie de travailler comme ça. J'avais pas envie que ça devienne une obligation avec des dates de rendu. Donc, ce que j'ai dit, j'arrête d'en faire des albums tous les ans. C'est-à-dire, je continue le blog à mon rythme, en faisant ce que je veux, quand je veux, quand j'en ai envie. Et je vais continuer comme ça, sans chercher à en faire des albums. J'ai dit ça à la fin 2011, au moment où était déjà sorti le tome 5, mais ce qui fait qu'en fait, il me restait encore un tome complet à faire. Donc là, je suis en train de bosser dessus sur le tome 7, qui va sortir en septembre, qui est l'année 2011-2012, qui était déjà presque complète à l'époque. Et après ça, il y aura encore un tome 8 qui, pour le coup, sera une compilation des travaux que j'ai pu faire pour les 24 heures de la BD d'Angoulême. Donc ça sera une série d'histoires plus longues réalisées dans ce cadre-là. Et après, ça sera en 2013. Donc après, je verrai où j'en suis au niveau du blog. S'il y a assez de matière pour faire un 9e tome, pourquoi pas. Le truc, c'est que je me suis enlevé l'obligation. Je ne me suis pas interdit d'en faire des albums par la suite. Je me suis enlevé l'obligation d'en faire un tous les ans. Donc voilà, le blog continue son cours tant que j'ai envie de le faire et peut-être qu'il y aura d'autres albums derrière.
Du coup, continuer le blog en fait pour faire peut-être un peu plus d'expérimentation, un peu plus de entre guillemets, d'essayer de pas formater justement ce qui est produit sur le blog pour.
C'est ça.
Pour se faire un peu plus plaisir.
Le blog avait beaucoup de contraintes. Il était en flash, donc j'étais limité à 3 pages maximum par note. Sinon, il fallait que je le fasse en plusieurs notes parce que simplement la fenêtre dans laquelle s'inscrivait le blog était limitée en taille. Et il y avait un moment où je ne pouvais pas dépasser cette limite de taille. Maintenant, j'ai fait appel à un programmeur, Arnold, qui m'a refait tout ça en WordPress. Et ce qui fait que je suis plus limité en nombre de pages. Donc récemment, j'ai fait des notes qui, par exemple, faisaient 5, 6, 10 pages. Et qui étaient... voilà. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça m'a enlevé des contraintes. Et maintenant, j'ai peut-être plus de liberté de faire ce que je veux, tout simplement.
En ce qui concerne le contenu, ça sera toujours sur le même principe de mise en scène de toi en tant que personnage, avec ses réflexions propres, ses mésaventures propres, plus ou moins réelles, plus ou moins en fiction, ou est-ce que tu as envie d'explorer d'autres pistes et de créer un personnage récurrent autre que ton pseudo toi-même ?
Alors, le pseudo moi-même, il est venu d'une façon très simple. En fait, c'est que au début, je pensais pas du tout que le blog allait être lu. Enfin, vraiment, c'était le blog. Il faut voir que quand je l'ai commencé en 2004, on utilisait encore très peu Facebook. On utilisait très peu les réseaux sociaux. Donc, le blog, c'était avant tout une manière de rester en contact avec d'autres dessinateurs, de rester en contact avec les copains et de se répondre les uns aux autres. Donc on faisait vraiment, on avait un truc très communautaire où je racontais les festivals auxquels j'étais allé, je racontais les anniversaires des copains, les soirées qu'on avait fait ensemble. Du coup, les deux premiers albums de notes sont très autobiographiques. Ça raconte des soirées, ma vie de dessinateur, mes voyages. Et dès le tome 3, en fait, j'en ai eu marre de raconter ça. Puis il y avait plus de lecteurs, donc ça avait moins de sens. Il y avait moins ce côté intime, petit cercle. C'était devenu vraiment un truc qui était lu par des gens. Donc je me suis mis petit à petit à basculer vers le billet d'humeur, mais je me suis gardé comme personnage principal parce que ça avait été un des principes fondateurs du blog, c'était de raconter des histoires en me prenant moi comme personnage. Donc j'ai gardé ce personnage, mais qui s'est de plus en plus décalé vers la fiction. Maintenant, aujourd'hui, je considère que ce que je fais depuis quelques années n'est pratiquement plus autobiographique. Ça part de choses autobiographiques, mais qui sont amenées plus vers le billet d'humeur, voilà. Je compare souvent ça à l'exercice de la comédie en stand-up, comme font les Américains, beaucoup, où le personnage va monter sur scène et dire « Hier, je disais à ma femme, figure-toi que j'ai vu le boulanger », mais qui ne raconte pas sa vraie vie, qui se sert de trucs de sa vie pour raconter des choses qui essaye de parler à tout le monde. Et pour moi, c'est devenu ça, c'est-à-dire que le personnage n'est plus moi, c'est devenu... l'incarnation comme ça d'un personnage qui parle sur scène de choses de la vie de tous les jours, mais qui essaye de s'adresser à plus de gens qu'au cercle d'amis qui s'intéressent à ma vie. Parce que ce cercle-là est quand même relativement réduit.
Tu as réussi à avoir un micro pour pouvoir chanter depuis Bulle et Globule. Tu as réussi à...
Depuis
c'est Bulle et Globule, non, je me rappelle plus, le tome 6.
De Bulle et Globule. Ah, pour chanter sur la scène du
c'est
Zénith.
Ça, tu as... maintenant que tu as un micro en main, est-ce que tu veux essayer de pousser la chansonnette? Il y a du monde ce soir.
Non, ça ira. Là, ça sera moins spontané. C'était... Là, il y avait cette histoire, effectivement, où j'étais au Zénith et je m'étais retrouvé tout seul sur la scène du Zénith pendant que les musiciens rangeaient leurs affaires et buvaient des coupes de champagne. Et il y avait ce micro branché et je me suis dit, j'ai une occasion de chanter au Zénith et j'ai failli le faire. Et si on lit l'histoire, on se rend compte, on comprend pourquoi j'ai pas pu le faire. Mais non, j'ai pas eu l'occasion. Et un copain musicien m'a invité à un de ses concerts, Aldebert, hein, qui fait de la chanson française, et m'avait dit, si tu veux, après le concert, je te laisserai chanter au micro. Et je lui ai dit, non, ça sera pas pareil. Là, c'était spontané. Il y avait le côté, c'était un accident. Le micro était resté branché. Ça m'aurait amusé, mais si c'est arrangé, c'est moins drôle.
Donc du coup, on n'aura plus d'aventures culinaires comme la raclette au fond du jardin qui reste.
Pourquoi ça, pas ça, si ça arrive, si à un moment je me dis voilà, les histoires, je me prive pas non plus de raconter des choses un peu réelles. De toute façon, le fondement même d'un bon mensonge, une bonne histoire est toujours finalement un bon mensonge, c'est-à-dire c'est un mensonge auquel on arrive à faire croire. Pour moi, c'est ça le fondement de raconter une histoire. C'est d'arriver à faire croire aux gens que c'est vrai et raconter quelque chose. Et il n'y a pas de mensonge plus efficace que celui dans lequel tu mets une part de vérité. Donc si tu racontes quelque chose qui t'est vraiment arrivé et dans lequel tu mets les vraies émotions que tu as ressenties à ce moment, en les caricaturant, en les exagérant, tu vas forcément taper plus juste que si tu inventes quelque chose de A à Z. Mais c'est pas, encore, c'est une contrainte qui vient par facilité, mais c'est pas une contrainte absolue dans le blog. J'ai déjà raconté sur le blog des histoires où j'apparaissais pas et où il y avait même aucun héros humain. Et à Noël, j'ai raconté une histoire qui parlait d'extraterrestres dans un futur post-apocalyptique. Ça avait vraiment rien à voir avec ma vie, pour le coup.
C'est
hélas, non. Non, bah bon. Longue histoire.
Pour revenir un petit peu donc sur ta bibliographie, est-ce qu'il y aura un tome 2 du Mia?
Alors le tome 2 du Mia, c'était une grosse frustration. En fait, on a eu beaucoup de contraintes par rapport au format sur le Mia, où il fallait que ça tienne en tant de pages. On m'a donné comme format ce format presque carré avec 96 pages. Le Mia était prévu à la base pour faire 150 pages. Donc j'ai quasiment un deuxième album complet. Le problème, c'est que cet album était vraiment très ponctuel. C'était un album un peu objet, un album un peu jeu. Il y avait des parties comme ça où il y avait une histoire dont on est le héros. Et j'ai matière à faire un deuxième album, mais ça serait comme remonter dans le temps, ça serait comme reprendre un vieux travail d'il y a des années et tout à coup s'y remettre et dire je vais le terminer. Je sais pas si je vais le faire. J'ai de quoi faire un deuxième album du Mia, mais je sais pas si j'ai maintenant envie de le faire, si quelqu'un a envie de le lire. Enfin voilà, c'est... À part toi.
on est deux avec mon collègue aussi qui fait d'habitude le podcast, on est deux à vouloir le lire, le tome 2. Tu as travaillé aussi à faire de l'illustration chez Bragelonne.
Ouais.
Tu as quand même illustré des choses qui étaient quand même assez intéressantes. Hein. Il y a eu quand même Éric Le Viking.
Ouais, bien sûr.
Et puis il y a eu le recueil de poèmes donc de tous.
Tous malades.
Tous malades. Voilà.
De Neil Gaiman et Stephen Jones.
Ouais.
Bragelonne, ça a été avant tout du copinage. J'ai une copine qui travaille chez Bragelonne et qui m'a dit je connais Alain Névant chez Bragelonne, qui aimerait beaucoup te rencontrer parce qu'il aime ton travail et il voudrait te proposer du boulot. Et moi, c'était un moment où j'étais débordé de travail et j'ai dit mais non, mais pas question, enfin j'ai pas le temps de faire de l'illustration, moi je suis dans la BD, je suis déjà bien occupé. Et elle m'a dit il habite à côté de chez toi, vas-y, fais pas ta star, descends en bas de chez toi et viens boire un café avec nous, quoi. Et j'ai dit bah oui, mais bien sûr, voilà, on y va. Et j'ai été boire un café avec eux. Je me suis très bien entendu avec Alain, qui est quelqu'un de vraiment charmant et de très intéressant, et qui m'a proposé ce projet de fou d'illustrer un livre qui avait été chaperonné comme ça par Neil Gaiman et Stephen Jones. Et moi, c'était un peu du genre, Neil Gaiman, quoi ? Purée, il y a même une nouvelle de Terry Pratchett à l'intérieur. Ouais. Mais bien sûr que je vais le faire. Voilà. Donc je l'ai fait. Les conditions de travail avec Bragelonne ont été incroyablement sympas. C'est-à-dire que je leur envoyais plein de trucs et ils étaient enthousiastes et j'avais des retours directs. Ils étaient motivés, ils aimaient bien. Il y avait un travail de... Moi, j'envoyais vraiment des petites aquarelles sur des coins de feuilles et eux, ils faisaient un travail de mise en page incroyable derrière. Donc, il y avait un côté, un confort absolu. Et j'ai... Donc voilà, ça, l'expérience avait été un plaisir énorme. Et 2 ans après, Alain m'a recontacté en disant « Gilles, j'ai un projet à te proposer, un projet que tu pourras pas refuser. » Et là, j'ai dit « Bon, d'accord, je le fais. » Il m'a dit « Mais tu veux pas savoir ce que c'est ?» Je lui ai dit « Je suis sûr que ça va être un truc génial, donc je te dis d'accord, maintenant. Maintenant, tu peux me dire ce que c'est. » Et il m'a dit « Il faut illustrer Eric le Viking de Terry Jones. » Illustrer le livre d'un des Monty Python. Oui, bah, je confirme, je suis toujours partant. Et j'ai eu l'immense joie, l'immense honneur de dédicacer avec Terry Jones au Salon du Livre. Et là, j'avais à nouveau 13 ans, quoi. J'étais à côté d'une de mes idoles et je pouvais dessiner et c'était fantastique, quoi. Donc, voilà. Bragelonne, c'est un mélange de copinage et de cours de récréation. Enfin, ça a toujours été formidable avec eux.
Il y a d'autres projets en cours justement avec Bragelonne ou en prévision ?
Alors avec Bragelonne, ouais, un projet en cours. Alors c'est terrible parce que j'ai pas les références du bouquin ici, donc je me souviens plus du nom de l'auteur. Une jeune fille très sympa que j'avais rencontrée au Festival des Imaginales à Épinal l'an dernier. Et c'est une jeune auteure de, je sais pas, elle doit avoir 21 ans et qui fait son premier livre de fantasy chez Bragelonne. Et on avait passé une soirée très sympa, on avait discuté, elle m'avait un peu raconté son parcours. Et on m'a recontacté parce que là, son livre sort enfin chez Bragelonne et elle... Et oh, on bosse ici. Et cette jeune dessinatrice a dit à Bragelonne, j'aimerais vraiment bien que ce soit Boulet qui fasse ma couverture. Et moi, j'ai dit, bah voilà, cette jeune fille était tellement sympa. Donc j'avoue, j'ai même pas encore lu le livre, je l'ai pas eu. Mais elle m'a dit ce qu'elle voulait comme illustration de couverture et j'ai fait une illustration de couverture. Je crois que le livre sort bientôt, mais j'ai pas les dates exactes.
Dessin et colorisation ?
J'ai fait juste la couverture, dessin et mise en couleur, ou c'est une petite aquarelle pour la couverture. J'ai pas eu l'objet, je ne connais même pas le titre du livre à vrai dire. J'ai juste eu les indications pour faire la couverture, j'ai envoyé un dessin un peu d'après ce que la jeune fille m'avait décrit de son personnage. Et ils ont été, comme d'habitude, enthousiastes et très sympas. Et ils m'ont dit ok, donc ça sera ça cette couverture. Et j'attends de recevoir le livre maintenant.
D'accord, très bien. Ben, on va un petit peu revenir plus proche de ton actualité, on va dire la page blanche.
Ouais.
Donc qui a été fait avec Pénélope Bagieu, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà.
Ça va, je ne me trompe pas, qui est paru en janvier 2012, c'est bon.
En juin 2012 ?
Janvier.
Janvier, oui, janvier. J'ai compris juin, je me disais quoi, ça va être diffusé quand ? Ok, vas-y.
Est-ce que l'association, en fait, pour ce livre, vient de l'éditeur ou en fait ça vient de vous, d'une volonté de travailler ensemble ?
Alors, ça vient de l'éditeur, de Guy Delcourt, hein, qui avait vu Pénélope Bagieu, qui avait été très intéressé par son travail, et qui a dit à Pénélope, on aimerait bien que tu fasses un bouquin pour nous, donc... Est-ce que tu veux faire un livre avec nous ? Pénélope a répondu oui, mais en ce moment, je ne me sens pas d'écrire un scénario. Je n'ai pas d'idée comme ça pour un livre que je voudrais faire. Donc, il me faudra un scénariste. Je pense que Guy Delcourt a fait le raccourci, tout simplement, blogueur, et qui m'a proposé, il m'a proposé à moi, vu que je travaille aussi chez Delcourt. Et il m'a appelé en me disant, est-ce que toi, tu serais d'accord pour écrire un scénario pour Pénélope ? Pénélope avait dit, oh ben Boulet, oui, vous pouvez lui proposer, mais il n'aura sûrement pas le temps ou pas envie. Et moi, ça a été un peu une surprise, c'est-à-dire je me suis dit, mais Pénélope, elle a autre chose à foutre que bosser avec moi. Enfin, moi, je la connaissais comme copine, quoi. Enfin, c'était une amie. Donc, a priori, j'aurais été ravi de bosser avec elle, mais j'avais même pas envisagé que c'était possible. Je me disais, elle est toujours sur 12 000 projets en même temps, donc ça ne va pas l'intéresser. Et quand j'ai appris qu'elle était OK sur le principe, j'ai dit, ah bah pourquoi pas. Et j'avais ce projet de la page blanche que j'avais commencé à écrire sans savoir à qui j'allais le confier, si c'était à moi ou à quelqu'un d'autre. Et donc j'ai dit, bah, j'ai un projet, je vais voir si ça l'intéresse. Donc j'ai parlé à Pénélope du projet de la page blanche. Elle a bien aimé, donc on s'est lancé et voilà. Donc pour l'éditeur, c'était peut-être un peu un mariage arrangé, mais pour nous, c'était simplement le plaisir de bosser entre copains. Et moi, j'aime beaucoup le travail de Pénélope, donc c'était une occasion de bosser avec quelqu'un dont j'aime le travail, quoi, tout simplement.
Mm-hmm. Ok.
Justement, du coup, au niveau de du travail lui-même sur le sur la page blanche, il y a donc tu as fait le scénario, le découpage, vous l'avez fait ensemble, c'était.
Alors en fait, j'ai fait le scénario sous forme de découpage. Moi, je sais pas écrire en forme de scénario. Quand je réfléchis à une histoire, je la dessine. J'ai toujours travaillé comme ça. Et du coup, j'ai commencé à dessiner l'histoire. J'ai fait le découpage et je l'ai envoyé à Pénélope chapitre par chapitre, sachant que à tout instant, elle était complètement libre d'agir sur le découpage. Elle était pas obligée de garder ce que j'avais fait. Donc, elle s'en est pas privée. Hein. Elle a réadapté mon découpage à sa sauce. Elle m'a même reproché d'avoir trop découpé, c'est-à-dire qu'elle m'a dit tout est déjà fait, donc tu reprends ton scénario, tu le redessines avec des bonhommes patates. Donc j'ai décalqué mon propre scénario avec des bonhommes patates pour lui renvoyer, pour pas qu'elle soit influencée par ce que j'avais pu faire avant. Et du coup, elle est partie sur des indications très minimales de ce que je voyais en mise en page et elle l'a adapté.
Mais donc on va arriver aux petites questions donc sur la bande dessinée. Alors donc on n'a pas eu le temps de choisir.
Oui.
Donc celle dont tu n'as pas envie de répondre, tu me dis, je te donne la suivante.
Ok.
Ton inspiration BD majeure, ce serait quoi ?
Alors il n'y a pas d'inspiration majeure. Ça dépend beaucoup des périodes, ça dépend beaucoup de l'état d'esprit, ça dépend beaucoup de l'enthousiasme d'une découverte. Moi j'ai des moments forts qui me reviennent comme ça. Quand j'étais petit, mes influences elles étaient franco-belges. C'était Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Astérix, Lucky Luke, classique. Après, il y a eu la période d'adolescence où j'ai découvert Fluide Glacial, Psychopathe, et des dessinateurs comme Gottlieb, Edika, Binet, Meister, enfin tous ces gens-là. Il y a eu des gros chocs à certains moments, du genre la découverte de Moebius, pareil, tardive. Je vais avoir 18-19 ans quand j'ai découvert Moebius et je pense que ça a changé du jour au lendemain ma façon de concevoir la bande dessinée. Pareil pour Bill Watterson, quand j'ai découvert Calvin et Hobbes, je devais avoir 14 ans. C'était dans les premières éditions cartonnées, c'était pas encore chez Hors Collection, je sais pas chez qui c'était, je me souviens pas, mais il y avait eu une première édition que j'avais découvert au CDI de mon collège. Il y a eu la découverte des mangas avec Akira, Dragon Ball, Ranma 1,5. Enfin, plein de choses ont été importantes à des moments différents pour des raisons différentes. Et quelquefois, on revient à des influences précédentes. On redécouvre Moebius à 25 ans, on redécouvre Gaston Lagaffe et les idées noires à 30 ans. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup d'influences, en fait. Il n'y a pas une œuvre fondatrice, quoi.
Une série dont il faut posséder l'intégrale, selon toi ?
Dont il faut posséder l'intégrale ? Ah la vache, c'est pareil, il y en a plein. Torgal m'a beaucoup marqué à un moment. Donc j'avais les Spirou aussi, l'intégrale de Franquin en tout cas. Les changements de dessinateurs, après quand ça passait par Fournier, Tom et Jean-Ry, où on découvrait à chaque fois... C'est marrant de voir ce personnage comme ça évoluer à travers le siècle, passer de main en main, avec à chaque fois un univers différent. Donjon, évidemment, je pense qu'il faut voir l'intégrale de Donjon. L'intégrale de Tintin, je pense que c'est important. Vraiment, Tintin, c'est quelque chose que je redécouvre énormément. On peut en dire beaucoup de mal sur certains aspects politiques, etc., sociaux. C'est vrai que moi, quand je relis les tout premiers Tintins... Tintin au Congo, je suis assez horrifié, quoi. C'est quand même un énorme album où Tintin passe son temps à tuer des animaux en voie de disparition. Il fait sauter un rhinocéros à la dynamite, mais mon Dieu, quoi. Et on se rend compte qu'il y a un décalage énorme, quoi. Il tapote sur la tête des petits noirs et il fait sauter des rhinocéros à la dynamite. C'est quoi cette BD ? Mais à côté de ça, l'univers entier de Tintin est tellement riche, tellement plein d'inventions à chaque page dans tout ce qui a suivi. Que pour moi c'est impossible de passer à côté. Donc oui, il faut avoir l'intégrale de Tintin. Tintin, c'est quand même un des rares héros qui peut passer absolument dans tous les univers. C'est-à-dire que vous avez Tintin en Amérique, c'est un western et à la fois un film de gangster. Après, il y a L'Étoile mystérieuse qui est un film d'anticipation et qui est en même temps de la SF, du fantastique. Il y a le récit de pirate avec le secret de la licorne. Il y a de la SF pure et dure avec le voyage sur la lune. Enfin, il y a tout dans Tintin. Il se permet de passer vraiment tout ce qui a l'air un peu cool en termes de BD, en termes de thème de BD. Genre, je veux faire une BD cool, je veux faire sur des pirates. Tintin l'a fait.
Une BD que tu as déjà offert plusieurs fois.
Ah, la BD que j'ai offert plusieurs fois. Il y en a plusieurs. Hein. Alors moi, c'est un peu faussé, hein, parce que il y a les BD des copains, donc que j'ai tendance à offrir beaucoup. Qu'est-ce que j'ai offert plusieurs fois comme BD? J'hésite beaucoup là. Je vais trouver. Il y en a plusieurs que j'ai offert plusieurs fois pour diverses raisons, pareil. Par exemple, pour tout ce qui est étudiant, les gens qui commencent dans la bande dessinée, j'ai beaucoup offert L'Art Invisible de Scott McLeod, qui est la BD qui parle de la BD et qui aborde en bande dessinée des problèmes auxquels on est confronté tout le temps en tant que dessinateur. Donc celle-là, je l'ai beaucoup offerte. Voilà. Et il y a beaucoup de BD que je trouve importantes d'avoir lues et que je vais avoir tendance à offrir assez souvent, genre les Pilules Bleues de Peters. Pour des gens qui s'intéressent pas à la BD, il y a des BD qui font le pont extrêmement facilement, genre Le Chat du Rabbin de Sfar, j'ai dû l'offrir plusieurs fois, Persepolis de Marjane Satrapi. C'est des BD que j'ai beaucoup offertes. Et il y en a d'autres dans le comique. Dans le comique, la BD que j'ai offerte des dizaines de fois et qui à chaque fois a eu un énorme succès, ça va être l'autobiographie de Off Me Too de Bouzard. Bouzard qui est un génie de l'humour trop peu connu. Voilà.
Ouais, non, je connais pas.
Guillaume Bouzard, mais découvrez ça, quoi. C'est
très social. Ouais, ouais. Problématiques sociales.
Donc toutes ces BD très sociales ont fait effectivement beaucoup parler d'elles, donc bah, je suis tombé dessus aussi. Mais effectivement, l'autre, je ne la connaissais pas.
Une BD qui mériterait une réédition, selon toi.
Qui mériterait une réédition?
Style un tome introuvable que tu as déjà cherché et qui...
Je suis pas tellement collectionneur en BD, donc je serais incapable de te dire ça. J'ai pas d'idée. Les BD que je connais, c'est par définition celles qui ont été rééditées. Je suis pas spécialement curieux. Je vais pas fouiller dans les vieilleries pour essayer de retrouver. Il y a quelques années, je t'aurais dit Little Nemo de McKay parce que je rêvais d'avoir vraiment les Little Nemo. Et Delcourt l'a fait depuis. Il y a eu les grandes éditions, la très grand format original de Little Nemo. Et ça, c'est à pleurer, quoi. Enfin, Little Nemo, pour moi. Little Nemo, j'ai dit Scott McKay à cause de McLeod juste avant, c'est Winsor McKay. Pardon. Little Nemo, pour moi, pareil, c'est une BD qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'on faisait dans les années 1900 en Europe, en termes de bande dessinée, on a des cases alignées avec le texte en dessous, on a des magazines pour enfants anti-germaniques, fascisants, du style Bon Point, ces magazines de l'époque. Et tout à coup, aux États-Unis, à la même période, tu as Winsor McKay qui a absolument tout inventé en bande dessinée, dans les cadrages, dans les successions de plans, dans les perspectives. C'est une bande dessinée qui est incroyablement contemporaine alors qu'elle date de 1900. C'est comme si on prenait une machine à voyager dans le temps pour retourner au temps des dinosaures et qu'on tombait sur un iPod. C'est quelque chose de complètement anachronique, ouais. Et de complètement génial pour son époque. Et je pense que c'était vraiment le truc que je rêvais d'avoir. Et là, pour le coup, c'est la bande dessinée où j'ai pas hésité à claquer vraiment plein de fric pour avoir les Little Nemo en grand format.
Ce qui est très très dur à ranger dans une bibliothèque, mais...
Qui est impossible à ranger dans une bibliothèque.
Mais c'est vrai que c'est faut l'avoir. Une BD de ton dessinateur préféré?
Bah, c'est pareil, hein, les BD de mon dessinateur préféré, il y en a tellement des dessinateurs préférés. Moi, quelquefois, je me suis fait des plaisirs. Je pense que j'ai voulu progresser en anglais, par exemple, pour pouvoir vraiment lire les Calvin et Hobbes en anglais. Et donc, BD de mon auteur préféré, c'est les formats à l'italienne de Watterson. Avec les strips en grand de Calvin et Hobbes et la page du dimanche en couleur. Et l'album des 20 ans, par exemple, avec les commentaires de Watterson en prime. Ça, pour moi, c'est un truc que j'ai dans ma bibliothèque et que je relis extrêmement souvent.
Je ne sais où, je suis là. J'allais dire, on continue dans une BD de ton scénariste préféré. Une histoire voilà, qui te transporte. Tu parlais de Torgal tout à l'heure.
Tiens, je vais partir complètement à l'opposé. Je vais te citer One Piece de Eiichiro Oda dans le manga. Ouais. Et One Piece pour moi, c'est vraiment le manga que je préfère. C'est un shonen et c'est ce qui me correspond le mieux en termes de scénario. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une liberté absolue dans le ton. C'est un peu ce que je disais pour tout à l'heure pour Tintin. C'est-à-dire que ces personnages passent indifféremment du western au film d'horreur, au récit de pirate. Il a fait une BD qui en est à son, je sais pas, 60e tome, 61e tome en France. C'est-à-dire que c'est encore plus loin au Japon. Et il arrive encore à se renouveler dans le scénario. Il arrive à mettre en place un personnage dans le tome 4 qui va simplement revenir dans le tome 61. Et il arrive à construire des ponts comme ça. Et il a une façon qui est à mi-chemin entre la construction et l'improvisation de construire ses histoires. Il a un univers qui est d'une richesse incroyable. C'est un mélange de Commedia dell'arte et du Baron de Munchausen. C'est des personnages costumés qui ont des expressions, des gestes propres à chacun. C'est vraiment des personnages de comédie. Et je trouve ça incroyable d'arriver qu'un homme seul, enfin, il a un studio qui l'aide, mais qu'un homme seul ait arrivé à concevoir un univers d'une telle richesse. Et donc, moi, Eiichiro Oda, je pense que c'est un des scénaristes en ce moment, en tout cas, comme je dis, c'est variable, sont les périodes et tout, c'est un des scénaristes pour lequel j'ai le plus de respect, en fait.
Justement, pour rester dans cette idée-là, est-ce que, de ton côté, tu aimerais arriver à créer une saga avec des personnages relativement récurrents, avec une profondeur, justement? Tu parlais de personnages de Commedia dell'arte, c'est effectivement dans One Piece, ils sont tous très exacerbés au niveau de leur caractère, de leur gestuelle, de leur costume, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente en termes de création, toi, de ton côté?
Alors, non, parce que c'est pas mon univers à proprement parler. Je serais incapable de tenir quelque chose comme ça sur le long terme. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché, comme on peut le voir dans les notes, à garder même dans le fantastique un côté crédible. Donc je suis très attaché aux détails qui ramènent à quelque chose de réel. Et la comédie, tout ce côté comédie, masque et tout, c'est trop pour moi. C'est quelque chose de trop théâtral que je pourrais pas tenir. En revanche, ce qui m'intéresse énormément dans le manga, c'est le format. C'est ce côté, c'est l'idée de faire une grande aventure en plusieurs tomes de 200 pages. Je trouve qu'avoir cette liberté, cette respiration comme ça dans le format où on peut rester autant de temps qu'on veut avec ses personnages, passer 5 pages à les faire juste visiter une pièce ou marcher sur une route juste pour le plaisir de faire des grands décors, sortir de ce format franco-belge 46 pages couleur que je déteste, ça oui, ça m'intéresse. C'est un truc sur lequel je suis en train d'essayer de travailler. Donc j'ai commencé un projet comme ça où j'essaye de me lancer sur un récit long avec des personnages récurrents sur ce format manga, pas dans le dessin. Dans le dessin, je garderai mon dessin à moi habituel, mais au moins dans le format de bande dessinée, vers quelque chose de plus manga. Ouais.
C'est sur quelle thématique, si c'est pas indiscret?
Ça sera récit d'aventure premier degré, c'est-à-dire des personnages qui partent à l'aventure. Enfin, je peux pas en dire tellement plus parce que c'est un scénario tellement confus qui serait dur à résumer en quelques mots.
Ok.
Est-ce qu'il y aurait un scénariste avec lequel tu adorerais travailler ou
Là encore, ça arrive un peu tard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, le scénariste avec lequel j'aurais adoré bosser, c'était Trondheim, et j'ai eu l'occasion de bosser avec lui sur Donjon. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau. Mais il y en a plusieurs après, mais c'est des copains. C'est vraiment des gens... Moi, pour bosser avec un scénariste, j'aurais vraiment besoin d'aimer la personne, de la connaître et de lui faire totalement confiance. Donc Trondheim, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers ses albums avant de le connaître. C'est-à-dire que j'aimais tellement son boulot que j'étais dithyrambique à l'idée de travailler avec lui. Il fait pas de la bande dessinée, mais si par exemple un écrivain comme Terry Pratchett, c'est quelqu'un avec qui j'adorerais bosser. Parce qu'il a un univers avec lequel j'ai tellement d'acquaintance, je me sens tellement familier de son univers, et j'aime tellement ce qu'il fait que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bosser. Mais sinon, ça serait des amis. Il y a Sibylline, par exemple. Sibylline, qui est une scénariste de bande dessinée, qui a fait Première fois chez Delcourt, qui a fait Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret chez Ankama. Et c'est une scénariste qui a une sensibilité incroyable et qui, en plus, est une très bonne amie. Et elle, j'en ai déjà parlé, j'aimerais bien, un jour, travailler avec elle. Ouais.
Ta dernière découverte en bande dessinée?
Oh, le blanc total. Oh la vache.
Bah, il peut y avoir rien aussi, hein.
Mais j'ai découvert plein de choses, mais ça fait une éternité que j'ai pas été emballé par une BD où je me suis dit la vache, c'est trop cool, je suis content d'avoir lu ça. Il y a des BD que j'aime bien, d'autres que j'aime moins, mais l'espèce d'emballement où vraiment on est super fan, comme j'ai pu ressentir avec tous les noms que j'ai cités tout à l'heure, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée, qui a été récompensée il n'y a pas longtemps, mais j'ai complètement oublié le titre. La vache, ça se passait en Amérique, avec un dessin très anguleux, très américain, des effets de construction des pages. Un personnage d'un écrivain qui se retrouve, ça fait un peu road movie. J'ai complètement oublié le titre, je suis désolé, ça ne va pas me revenir.
En ce moment, tu as quoi sur ta table de chevet en termes de bouquins ?
En termes de livres, livres tout genre confondu, ou tu entends juste bande dessinée ?
Bah, les deux, pourquoi pas ?
Alors j'ai pas mal de choses, j'ai acheté pas mal de bandes dessinées que je voulais découvrir, mais c'était souvent sur des coups de tête, donc je serais même incapable de citer les titres, c'est juste on m'a dit ça c'est bien, prends-le, et je l'ai mis sur ma table de chevet. Et sinon, en termes de livres, j'ai beaucoup de mal à lire des romans en ce moment. J'ai beaucoup de mal à me plonger dans des romans, donc j'ai tendance à alterner des lectures qui vont être plutôt des livres, de souvent scientifiques, de vulgarisation. J'adore la science, comme ça, pareil, ça doit se ressentir dans ce que je fais. Donc je lis beaucoup de livres de vulgarisation sur la génétique, la cosmologie, l'astrophysique, la neurologie, des choses comme ça, et qui m'intéressent énormément. Et donc j'en ai pas mal sur ma table de chevet en ce moment. Je suis allé faire une razzia sur le stand du CNRS quand je suis allé au Salon du Livre. Et quelques BD, mais alors te dire lesquels, je suis incapable. Il y a toujours une pile de 40 bouquins sur ma table de nuit. Et je les pioche au hasard, et quand j'en ai fini un, je le mets ailleurs, et j'en ai racheté deux entre-temps, donc ça ne diminue absolument jamais.
Avec Thierry, cet après-midi, on discutait de la nécessité de se nourrir ailleurs pour arriver à trouver de nouvelles idées. Toi, tu te tournes vers quoi ? Vers la télé, vers la lecture, vers la peinture, vers de la photo ?
Moi, j'alterne en fait des phases de travail et des phases de boulimie absolue en termes de culture. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être complètement coupé du monde, ne pas écouter la radio, ne pas regarder les journaux, ne pas trop aller sur Internet et dessiner tout le temps. Et il y a des moments où tout à coup, j'arrive plus du tout à bosser, et du coup, là, je deviens une éponge. C'est-à-dire que je vais, dans une seule journée, je vais regarder 5 séries télé différentes, regarder 2 films et lire la moitié d'un bouquin et faire comme ça pendant 2 semaines. Et aller au cinéma tous les soirs, et j'ai besoin comme ça, comme si j'avais besoin de recharger les accus. Et tout ça se mélange, et puis après j'alterne comme ça les phases. Donc il y a des moments où voilà, il y a des moments où j'ai 40 bouquins sur ma table de chevet, et puis il y a des moments où j'en ai 2. Et puis après il y a des moments où je vais passer un mois sans regarder un seul film, et des moments où je vais en regarder 2 par jour. Donc moi c'est surtout, j'irais pour résumer, dans la culture pop. C'est-à-dire ça va être dans la bande dessinée, dans le cinéma, les séries télé, la musique, enfin. Une sorte de mélange de tout ce qui peut me tomber sous la main à travers mon ordinateur.
L'actu, ça te sert
rarement.
À... Voilà,
en fait,
c'est la question.
L'actu, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à parler. Par manque de connaissances, parce que ce rythme ne te permet pas d'avoir une sorte de vision suivie. Pour moi, pour être un commentateur pertinent de l'actu, il faut avoir d'énormes connaissances historiques en plus d'un bon esprit critique. Et connaître les tenants et les aboutissants d'une situation dont tu parles, tu peux pas tout à coup sortir une BD sur Israël si tu t'es pas intéressé au sujet, si tu connais pas l'histoire, si tu as pas vu le pays. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas. Pour l'actualité, c'est plus délicat d'avoir le regard de l'ingénu. Parce que le regard de l'ingénu en termes d'actualité, c'est le regard du con. Quoi. Enfin, c'est le regard du mec qui comprend pas et qui dit oh c'est tous des pourris. Et donc c'est triste en fait. Le regard de l'ingénu sur l'actualité, je le trouve extrêmement triste et j'ai pas envie de basculer là-dedans. Donc en fait, face à l'actualité, j'ai souvent cette espèce d'aveu d'ignorance, d'aveu d'impuissance, et j'évite le sujet.
D'accord. pour toujours dans cette idée de recharger les accus, est-ce que tu ressens le besoin pour aller chercher, j'en sais rien, de nouvelles couleurs, de nouvelles façons d'illustrer, de nouvelles lumières? Est-ce que tu ressens le besoin d'aller voyager, d'aller sortir ailleurs, de...
Ben, alors ça, c'est quelque chose que je recherche pas, c'est quelque chose que je subis. Et dès le moment où on se met dans un mode un peu créatif à imaginer ce qu'on va représenter, tout à coup, on se rend compte que ce phénomène de devenir une éponge est de plus en plus fort. C'est-à-dire que moi, je sais que les moments où je travaille, c'est-à-dire les moments où je suis dans mes BD, je suis vachement plus attentif à tout ce qui m'entoure, aux architectures, aux formes naturelles, aux gens, à leurs attitudes, comme si j'essayais de comprendre quelque chose et d'accumuler. Et du coup, oui, voilà, il va y avoir cette recherche. Et la recherche dans les voyages, c'est pareil, ça va être quelque chose que je vais subir. J'ai fait des voyages en Afrique, aux États-Unis, et je pensais arriver là-bas avec l'outil qui était le dessin, avec mon outil à moi, et je pensais que j'allais utiliser cet outil pour dépeindre ce que je voyais. Et en fait, je me suis rendu compte que mon outil n'était pas adapté, et que tout à coup, ma façon de dessiner changeait quand j'étais là-bas, parce que tout à coup, le décor était différent et que je devais apprendre d'autres choses pour pouvoir représenter ce que je voyais. Et donc, pour ça, l'Afrique, la Chine, le voyage à New York m'ont beaucoup apporté en termes de dessin. Ils ont changé ma façon de dessiner.
Tu n'as pas eu une espèce de besoin frénétique à ce moment-là, quand tu étais sur place, de prendre ton crayon et de dire « ça, il faut absolument que je le dessine, ça, il faut absolument que j'en fasse une histoire »
C'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a des vrais boulimiques en dessin. Moi, pour avoir bossé avec Sfar, je me suis rendu compte que quand tu as un rendez-vous d'une heure avec Sfar et que tu discutes avec lui à une terrasse de café, quand tu ressors, la nappe est noire parce qu'il a sa main continue à bouger, je pense même quand il dort. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas un compulsif. J'aime dessiner, j'aime le dessin, j'aime comprendre les choses. Pour moi, le dessin, c'est comme un scalpel. Je m'en sers pour disséquer, pour expliquer. Je sais pas, j'ai moins besoin de décharger des millions de choses qui sont dans ma tête. C'est plus un outil de construction. Je sais pas comment le dire.
Oui, c'est pas thérapeutique. Tu n'es pas là pour déconstruire quelque chose que tu as dans la tête de façon embrouillée.
Non, c'est plus...
Tu as envie de créer quelque chose.
Et du coup, quand je suis allé aux États-Unis, c'est ce que je te disais, par exemple, c'était l'outil n'était pas adapté. Donc, je suis arrivé, j'avais envie de dessiner des trucs parce que tout à coup, il y avait une scène qui me frappait. Je me disais, oh, ça, j'ai envie de le dessiner. Et quand je voulais le dessiner, j'y arrivais pas parce que je savais pas le faire. Il y avait quelque chose qui collait pas dans mon geste, il y avait quelque chose qui collait pas dans mes couleurs. Et il fallait réapprendre à dessiner à chaque fois. Et ça, c'est le moment qui est le plus grisant. C'est quand au début on arrive à faire que deux croquis de merde en 3 jours et qu'au bout de 5 jours tout à coup ça vient tout seul et ça y est, on a compris quelque chose dans le dessin, il y a quelque chose d'américain qui a été insufflé et ça restera et après ça se retrouvera ailleurs.
Justement, en amont de ces voyages, est-ce que ça te dirait pas de t'imprégner de ce qui existe déjà? Je prends l'exemple de New York, t'inspirer de ce qu'aurait pu faire Eisner sur son dessin, sur son appréhension de l'architecture de la ville, de l'ambiance de la ville, pour justement arriver sur place avec peut-être une charge en outils, pour reprendre tes termes,
je suis pas pour en fait. Je suis pas pour l'intervention d'une tierce personne. En fait, pour moi, quand on s'inspire d'un dessinateur de BD, on fait comme quelqu'un qui copie une cassette, qui a été copiée sur une cassette, c'est-à-dire qu'on perd une génération. C'est-à-dire que la personne a vu quelque chose qu'elle a codé. Elle l'a codé dans son dessin. Et après, si tu redessines d'après ce dessin, tu surcodes quelque chose qui a déjà été codé et tu perds à chaque fois une génération. C'est comme ça qu'on arrive souvent des jeunes dessinateurs qui vont simplement recopier du manga sans chercher à apprendre à dessiner, qui vont juste s'inspirer de manga pour apprendre à dessiner, vont faire du sous-manga. Il y a la même chose dans l'école belge, dans l'école américaine. Et pour moi, c'est très important de dessiner d'après la réalité. Et j'ai lu plein de bouquins d'auteurs américains que j'ai beaucoup aimés, Jimmy Corrigan et autres. Les ambiances américaines, elles ont été magnifiques. J'ai des livres de photos sur les États-Unis desquels je m'inspirais pour dessiner d'après photo. Mais il y a quelque chose qui est pas réel tant que tu n'y as pas été, tant que tu n'as pas la lumière qui se mélange à l'odeur, à la température de l'air, à tout en fait, pour le ressentir pleinement et avoir envie de le dessiner. Le dessin, pour moi, c'est tellement un ressenti que tu peux pas le faire d'après photo ou d'après l'expérience de quelqu'un d'autre, t'es obligé de le vivre. Donc effectivement, j'avais beaucoup d'influence américaine dans le dessin par tous ces auteurs dont j'ai été nourri, mais mon dessin n'avait pas été imprégné de ça tant que j'avais pas été là-bas.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez de l'argent? Il y a des jeunes là. Qui est-ce qui a laissé rentrer des jeunes?
Du coup, je sais plus où j'en suis. Moi. Ça y est, je suis perdu.
Une petite digression.
Ouais. Ton plaisir honteux en BD. La chose que tu lis et dont tu aurais honte finalement presque de nous en parler.
Non, j'en ai pas. Je sais pas. Je cherche là, mais non, j'ai vraiment pas de plaisir honteux en BD. J'ai des plaisirs pleinement assumés. Je vais pouvoir lire des shonen ultra bourrins. Je lis Naruto, mais j'en ai absolument pas honte. C'est pas un plaisir honteux, quoi. Je suis très content de lire Naruto. Je lis GTO. Je me marre comme un bossu. J'adore GTO. Mais j'ai pas de honte. J'ai pas de plaisir honteux en BD, non.
Est-ce que tu as, bah, justement, pour un auteur qui a un blog quand même qui est très très connu, est-ce que tu as toi aussi une BD online que tu suis ou que...
Oh là, il y en a 12 000. Oh la vache, j'en lis tellement des BD en ligne. Je vais me limiter au français, ça irait plus vite, mais mes chouchous du moment, ceux dont je guette les notes, c'est vraiment Bastien Vivès, Marion Montaigne, Erwan Surcouf. C'est les trois premiers qui me viennent en tête.
Et tes journées ont combien d'heures?
Ça prend pas longtemps hein, dessus les blogs. Mais après chez les Américains, il y en a tellement que là je peux pas faire la liste quoi. Moi je suis tout le temps sur Reddit par exemple, qui est un réseau social américain où t'as plein de liens qui sont postés, et je suis sur la section comics, et dès qu'il y en a un nouveau qui est mis en ligne, je vais voir ce qui se passe.
C'est quoi. La question que j'allais te poser, c'est que tu parlais beaucoup de BD franco-belge, la partie comics, est-ce que tu en suis également?
Je suis pas de gros lecteur de comics, c'est-à-dire je lis très très peu de comics parce que je connais pas et je sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'être complètement largué dans cet univers. Il y en a quelques-uns que je suis et que j'adore, genre Walking Dead, Fables, j'en avais un troisième et ça y est, je l'ai oublié. J'ai oublié le titre encore une fois. Je suis très mauvais avec les titres, hein, comme t'as pu t'en rendre compte.
On a un grand spécialiste pour être très mauvais en titre.
Enfin voilà, et sinon en webcomics, alors là il y en a un paquet, il y a XKCD, Hot Mill, Zach Weiner, Kate Beaton, Lisa, Anna Wolt, Julia Vertz, il y en a tellement quoi, enfin... Ouais, voilà.
Maintenant plein. Qu'on est dans un moment où beaucoup de comics justement reprennent sur leurs origines, sur ce qu'on appelle le rebirth, quoi. Est-ce qu'il y en a un où tu aimerais vraiment participer, auquel tu aimerais vraiment participer, si tu en avais l'occasion? Carte blanche totale, lequel tu choisis?
Je connais tellement peu les comics, je serais incapable de te dire. J'ai pas, parce que pour moi, mentalement, je sais pas si c'est judicieux de faire ça, mais dans ma tête, mentalement, la BD américaine est vraiment coupée en deux entre tout ce qui est le monde indé et etc. qui m'intéresse beaucoup plus que le monde comics où j'ai jamais été trop client. J'ai jamais lu tous les Spider-Man, les X-Men, Superman, Batman. J'ai jamais lu ça. Enfin, c'est pas du tout mon univers. Il y a plein de choses que je trouve très belles, très bien dessinées, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas été éduqué pour ça. Donc non, je saurais vraiment pas du tout te dire.
D'accord.
Eh bien, on arrive à la fin de notre interview avec les questions à la con.
Vas-y,
alors,
balance.
Donc, je te donne deux...
Là, c'était les questions intelligentes, bah putain, qu'est-ce que ça va donner?
Mais on n'a pas dit que c'était un blog intelligent, nous.
C'est un sous-blog.
Vas-y, balance.
Donc, deux noms et tu choisis un des deux.
Merde, vas-y, dis.
RG ou Franquin?
Franquin.
Soleil ou l'association?
L'association.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson?
J'ai aucune idée de qui sont ces gens.
Ok. Batman ou Superman?
Ah là, celui-là est dur. Superman, je le vois un peu comme un facho. Je dirais Batman, mais il m'est antipathique aussi. Il a ce côté parvenu, c'est du sale riche avec ses gadgets.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe?
Je suis plutôt noir et blanc pas cher. Je suis pas très attaché à l'objet en fait. Ouais.
À moteur ou à plume?
À moteur ou à plume?
Ouais.
Je comprends même pas la question.
Ben, en fait, le jour où on les a sortis, celle-là, c'est sorti comme ça. À moteur ou à plume?
À moteur.
un moteur.
J'aime bien les moteurs, j'aime bien la mécanique. Donc je comprends pas à plume. À plume, je vois un matelas ou un poulet. Donc je vais dire à moteur, un truc qui écrase les poulets.
Slip ou caleçon ?
Caleçon.
Blonde ou brune ?
Sans opinion. Ça dépend si on parle de la bière, des filles, des cigarettes.
Thé ou café ?
Café, café, café et encore café et un autre café s'il vous plaît.
Trondheim ou Larsenet ?
Là c'est comme si tu me disais sucré ou salé, quoi. J'aime tellement de choses dans les deux, sans opinion.
Ok, numérique ou traditionnel ?
Là, c'est pas sans opinion, c'est les deux. Moi, j'aime bien faire du traditionnel sur numérique, c'est-à-dire que je fais un blog, ce qui est considéré comme de la BD numérique, mais à la fois, je dessine sur des carnets, au stylo, avec de l'aquarelle. Donc, je suis hyper tradi. Salut. Donc, les deux, mon capitaine.
One shot ou saga ?
Plutôt saga, j'aime bien les sagas.
Alors, Donald ou Howard the Duck ? C'était un film.
C'était le canard. Truc tout pourri là de Ron Howard.
Ouais.
Je l'ai jamais vu. Donc je vais dire Donald.
Ok.
Parce que l'autre je l'ai pas vu.
Toriyama ou Otomo ?
Oh la vache, papa ou maman ? Oh la vache, c'est impossible. Les deux beaucoup.
Bière ou pastis ?
Oh bière, sans hésiter. J'ai pas eu un micro
là. Non, je t'entends toujours.
Ok. Bière. Je suis pas pastis. Je m'en merde. Bière quand même.
Blur ou Oasis ? C'est quoi ?
Je m'en fous. Je m'en fous, je différencie même pas les deux.
Atari ou Amiga ?
Amiga. L'enfance, tout ça.
Et bien voilà, écoute, on a terminé notre interview.
Wouh ! Sans problème, les doigts dans le nez.
Merci beaucoup.
Ben merci, donc, j'espère que j'ai pas été trop bavard. S'il y a des auditeurs qui écoutent ça pendant 25 heures, j'espère que ça les a intéressés.
Oh, je pense, oui, je pense.
Ok.
Donc on peut te retrouver sur ton blog.
Je peux retourner boire.
Ah oui, t'as oui,
une
oui.
Une phrase à dire.
Ah non, sinon je vais
Moi,
me faire
j'ai
tuer.
Une phrase à dire.
Ouais.
C'est quoi ? Et c'est parti pour le coin des questions que tout le monde se pose.
Bonjour, je suis Boulet et vous écoutez La Voix des Bulles.
La Voix des Bulles.
La Voix des Bulles.
Il faut arrêter de mettre bulles partout dans vos titres. Parce que bulles, les festivals bulles, quoi, arrêtez. Bon, alors attends, je le fais. Bonjour, je suis Boulet, vous écoutez La Voix des Bulles.
Ouais.
Bonjour.
Il va falloir que tu m'envoies les informations.
Heureusement que c'est coupé au montage.
Tu peux parler ? Ah la vache ! Vas-y, parle, après on coupe au montage.
Désolé.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour, c'est Boulet, vous écoutez La Voix des Bulles.
Super, merci.